Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Radio Alliance Plus, bienvenue pour cette émission. Aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir d'être avec un ami de l'Église protestante unie de Nîmes, du Mas des Abeilles, qui est aussi psychanalyste et à Beauvoisin. Il nous dira peut-être l'adresse exacte de son cabinet un peu plus tard, si vous désirez en savoir plus. Et puis, il est aussi aumônier à la Maison d'arrêt de Nîmes. Bonjour Bernard Angosto.
Bonjour Christiane Hervault.
Je suis charmée d'être avec vous. C'est pas la première fois que vous venez à ce studio, m'avez-vous dit à l'oreille.
Oui, tout à fait. Merci de me tendre la perche parce qu'en fait, la première fois où je suis venu, il y a quelques années, j'avais été invité par François Rochat, Maître François, comme j'aimais l'appeler. J'avais envie de le citer parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui m'a toujours accompagné de manière discrète, mais bien présente. Je pense aujourd'hui que nous sommes faits en partie des rencontres qui sont les nôtres sur le chemin. Cette rencontre m'a fait aussi. Ça me rappelle une phrase de Cocteau qui disait « Une personne est définitivement morte quand la dernière personne qui l'a connue est morte à son tour, c'est-à-dire quand on n'en parle plus. » Je crois que c'est très important de parler de nos morts, que ce soit en famille, que ce soit des amis ou ailleurs, parce que ça les fait exister symboliquement avec nous et que ça constitue, me semble-t-il, une mémoire collective et le souvenir. Alors, je n'avais pas pensé à le dire, mais ça m'est venu tout à l'heure. Le souvenir, je pense, fait également identité. Donc, merci beaucoup.
Oui, alors, on précise parce qu'on ne l'a pas dit. C'est que François Rochat était le président de Radio Alliance Plus ici pendant très longtemps et qu'il est décédé, que nous avons eu l'occasion d'être avec sa famille hier au Mas des Abeilles pour le culte d'Action de Grâce. Car François est décédé il y a à peu près une semaine, pas plus. Et bien sûr, nous sommes avec lui et avec tout ce qu'il nous a apporté. Dans notre vie, à chacun à notre manière. Vous, Bernard Angosto, sans doute plus que moi, parce que vous l'avez mieux connu plus longtemps, et ça c'est très bien. Il a beaucoup apporté à la radio aussi, pendant très longtemps, comme président, puis aussi comme animateur de plusieurs émissions. Voilà, donc nous en sommes reconnaissants. C'est un premier temps ensemble qui est important pour vous justement, et nous allons plonger aussi dans les souvenirs puisque vous êtes psychanalyste comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis depuis combien de temps vous l'êtes? Est-ce que c'est si vieux que ça?
Alors depuis que j'ai ouvert mon cabinet, ça fait 13-14 ans maintenant, mais depuis combien de temps? Je crois depuis bien longtemps. Parce qu'il y avait déjà des choses dans mon enfance qui s'étaient mises en place. Mais effectivement, ça fait effectivement 14 ans maintenant que j'ai ouvert mon cabinet. C'est très intéressant parce que je voudrais faire tomber une représentation maintenant. J'entends encore beaucoup de personnes qui me disent « Oui, la psychanalyse, ça éloigne de la question religieuse. Les gens deviennent, si j'ose dire, des bouffeurs de curés. » Pas pour moi. Pas pour moi du tout. Au contraire, je peux dire que mon travail psychanalytique m'a rapproché de la religion protestante, je précise, vraiment du protestantisme. Je dis même aujourd'hui que ça l'a articulé, parce que ce soit la psychanalyse ou la religion protestante, je vais dire que ça me permet de me tenir debout, et j'irai même peut-être un peu plus loin. Je crois que ça m'aide à vivre. Ça m'aide à vivre.
Alors, de ce vécu auquel nous faisons référence pour le moment, avant la psychanalyse, avant le psychanalyste que vous êtes devenu petit à petit sans doute, il y a eu d'autres métiers peut-être, une autre vie je dirais, mais bon, qui se rejoint certainement.
Oui, effectivement, j'ai exercé la profession d'éducateur spécialisé pendant plus de 22 ans. Il y avait déjà quelque chose qui était tourné vers l'autre, même si cette expression est complexe, hein, parce que ce n'est pas si simple que ça de faire exister l'autre. Hein. Parfois, dans une même journée, on y arrive, et puis on y arrive moins bien, puis parfois on n'y arrive pas. Mais l'idée, c'est de toujours avoir en tête que l'altérité est là et que nous devons absolument la faire exister. Éducateur spécialisé, presque toute ma carrière, dans un centre de soins en addictologie. Voilà, à accompagner en équipe, parce que je voudrais préciser que l'addictologie ne peut pas se faire seule. C'est absolument nécessaire d'avoir une équipe pluridisciplinaire pendant tout ce temps-là, effectivement. Et déjà un premier temps où j'étais également présent à la maison d'arrêt de Nîmes, mais effectivement pour rencontrer des personnes détenues qui étaient rentrées pour des raisons de consommation multiples et variées. Donc il y avait déjà ce premier temps-là, à la maison d'arrêt, à une autre place qu'aujourd'hui, mais effectivement, dans cette rencontre. Comment tout ça est venu ? Je pense que c'est venu du fait que j'ai été gravement accidenté sur un terrain de rugby, il y a des années maintenant. J'ai été opéré, ça a duré 3 ans. Et à ce moment-là, j'ai eu des gens qui ont été là pour moi, qui m'ont tendu la main, que j'ai su prendre aussi. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une main tendue, encore faut-il pouvoir la prendre. Mais j'ai rencontré... autour de moi, celle qui est devenue mon épouse, Catherine, hein, qui ne m'a pas lâché, vraiment pas. Des soignants qui ont été là pour moi, ma famille, des amis. Et malgré la peine, vous savez, c'était compliqué. Moi, j'étais très jeune et entre le désir qu'on peut avoir et la réalité de la blessure, il y a parfois un écart qui est assez dur à combler. Mais je crois que j'ai eu cette chance d'avoir des gens présents pour moi au bon moment, si j'ose dire, à la bonne heure. Donc je me suis dit, après tout ça, en me relevant au bout de 3 ans, je me suis dit, bon, peut-être qu'il est temps pour moi d'essayer aussi de tendre la main. Ça a commencé, je pense, comme ça, doucement, et mon chemin a tranquillement évolué à travers un tas de rencontres dont je parlais tout à l'heure. Alors, je ne peux pas citer tout le monde parce qu'on en oublie toujours et c'est toujours délicat, mais des rencontres ont fait qu'aujourd'hui, je suis devant vous aux places que j'occupe, oui. Mais il a peut-être fallu une cassure, une fêlure ou quelque chose pour que mon chemin change de direction. Parce que quand on fait du sport, on est très centré, ce qui est normal sur le sport. Et je crois que ça m'a ouvert à la question de l'autre, vraiment.
Il y avait une suite logique entre l'éducateur spécialisé et psychanalyste.
Je ne sais pas si elle était logique, mais en tout cas, mon travail psychanalytique, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été au travail... avec une personne, une psychanalyste avec beaucoup d'expérience et qui était dans la question de la transmission. J'ai vite senti 2 choses, c'est la transmission et la question de l'éthique. Et je pense qu'elle a transmis ce désir à un moment d'ouvrir mon cabinet et d'essayer effectivement moi-même de pouvoir soutenir d'autres. Voilà, avec ce dispositif. Voilà, c'est celui que j'ai entendu, qui m'a porté, que j'ai porté, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Mais je voudrais rappeler qu'il n'y a pas qu'un dispositif de travail sur soi. Je ne suis pas un dictateur de mon champ, mais c'est du côté de la psychanalyse aujourd'hui que je me situe. Et effectivement, je pense que c'est aussi cette rencontre-là, dans l'idée de la transmission, quelque chose est passé. Alors c'est compliqué parce que la transmission, ça ne passe jamais vraiment par où on pense. C'est quelque chose de complexe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé, je pense, de cet ordre-là. Et du coup, il y a un désir qui est né. J'ai eu beaucoup de difficultés. Vous savez que ça fait toujours... j'avais beaucoup de doutes et ça fait toujours très peur, hein, la question du désir, puisqu'il faut accepter de ne pas savoir où ça va. Mais j'y allais pas tout seul. Et quand on n'y va pas tout seul, on y va.
Donc, de éducateur spécialisé qui a un certain diplôme, là, je vais juste... Vous avez dû reprendre des études.
Alors, pas forcément.
Il y a un lien.
Il peut y avoir un lien. Moi, je n'ai pas repris d'études. Hein. J'ai été, si je veux dire, adoubé par mes pères. Hein. Il y a un minimum quand même.
D'accord.
Mais effectivement, vous mettez le doigt sur quelque chose d'intéressant. Je ne suis pas psychologue. Je n'ai pas fait des études de psychologie. Hein. Ça, c'est très juste ce que vous dites. Hein. Donc, ce n'est pas sanctionné d'un diplôme. D'accord. C'est sanctionné d'un désir. Ah, ce n'est pas tout à fait pareil.
Non, non, voilà, j'apprends quelque chose aujourd'hui. Alors, comment est-ce que vous pourriez définir la psychanalyse ? C'est peut-être compliqué, mais alors, bon, quand en tout cas pour vous.
Oui, quand on
va peut-être se situer là.
Oui, quand on essaie
de partir dans des grands débats sur qu'est-ce que c'est, ça serait peut-être long ou trop long.
Oui, puis ça marche pas bien. Les grands débats qu'on entend même à la télévision, quand on essaie d'expliquer ce que c'est la psychanalyse, ça tombe toujours un peu à l'eau. C'est un dispositif, moi, qui m'a permis de me sauver la peau. Voilà ce que je peux dire. C'est-à-dire que, alors, issu de Freud, de Lacan et d'autres, mais sont quand même les références, Freud et Lacan, ça m'a, je peux dire, c'était une question de vie ou de mort pour moi. Psychique, j'entends. C'est-à-dire que je ne suis pas celui qui est devant vous aujourd'hui. Je viens de loin, si j'ose dire. Et ça m'a vraiment sauvé la vie. Vraiment. À plusieurs niveaux. Donc ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a été d'une efficience très importante pour moi, vraiment. Voilà.
Vous-même avez fait une psychanalyse.
Oui, voilà. De nombreuses années. C'est quand même le minimum qu'on peut attendre d'un psychanalyste, parce que, hormis de savoir qui il est, on n'en saura jamais rien, mais ce qu'on peut quand même savoir, c'est que lui-même a pratiqué la psychanalyse. Pour lui, c'est le minimum. Parce que vous avez quand même, je vous parlais d'éthique. L'éthique à minima, c'est que le psychanalyste que vous rencontrez, la seule garantie qu'il peut avoir, c'est qu'il a fait une analyse lui-même. Et l'autre garantie, c'est qu'il ait des séances de contrôle. Parce que quelqu'un qui s'autorise de cette place, à minima, doit pouvoir dire un petit peu, poser ses actes, puisque le contrôle, c'est le contrôle de l'acte, avec quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. C'est ce qui garantit quand même qu'il ne fait pas n'importe quoi. Donc quand j'entends, moi, des collègues, alors pas psychanalystes pour le coup, mais parfois autres ou autres thérapeutes qui n'ont jamais fait aucun travail sur eux-mêmes et qui n'ont jamais eu de séance de contrôle, ça me questionne plus que largement. Vous voyez, ce n'est pas forcément le diplôme qui sanctionne la qualité du travail. C'est un tas d'autres choses.
Oui. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord sur le fait que c'est indispensable qu'il y ait un retour sur soi, enfin quelque chose par rapport à soi-même pour comprendre aussi. Qu'est-ce que vous diriez comme le but de la psychanalyse, c'est quoi pour vous ?
Alors le but, c'est que les personnes aillent mieux ou aillent bien. Voilà, je vais rester très simple.
Oui.
Quand quelqu'un vient voir un psychanalyste, c'est qu'il ne va pas très bien, sinon on n'en a pas besoin. On fait plein d'autres choses. Mais quand on pousse la porte d'un analyste, c'est qu'effectivement, on a des choses à régler.
Ouais.
D'ailleurs, on ne parle pas de paiement, on parle de règlement. Et je voudrais rajouter quelque chose qui peut paraître un peu curieux si on ne connaît pas ce champ. Mais le règlement, vous réglez le travail de l'analyste aussi, mais c'est une parole qui vient se régler. C'est très important. C'est rouvrir à la parole qui, finalement, le risque le plus difficile qu'un être humain puisse prendre, c'est de dire. Parce que quand on dit, on ne sait jamais trop ce que l'autre va entendre, ce qu'il va en penser, s'il va penser l'inverse de ce qu'on a envie de dire. Mais peu importe. C'est le prix de la parole, c'est très, très, très important. La parole se règle. Pas que le travail de l'analyste, même si ce que je dis peut paraître peut-être un peu curieux aujourd'hui.
Bien, nous allons poursuivre l'émission sur ce champ très intéressant du rapport à l'autre. Et je vous propose pour le moment d'aller vers des jours meilleurs.
Merci beaucoup.
Comme le dit Maxime Le Forestier. Donc nous allons l'écouter et puis nous revenons juste après ensemble pour continuer cette conversation passionnante avec Bernard Angosto.
À courir du Pacifique à l'Inde, on voulait quoi? On voyait partout des sardines alignées dans de l'huile de moteur. Fallait donc qu'on couse à nos jeans des fils de couleur. On était nés sur des ruines. Times were changing. On pouvait planter des fleurs. On voulait juste des jours meilleurs. Juste des jours meilleurs. J'entends les mélodies grises et toutes ces voix qui disent ils viendront plus. Dans les fontaines de pleurs, j'entends gémir les cœurs des si j'avais su, si j'avais pu, et si j'avais eu moins peur. J'entends grossir les ventres et fumer les cigares, ça fait la différence entre ancien adolescent et futur vieillard. Grossir les flingues et fumer les mémoires, pendant qu'une bande de dingues au fond de leurs idées vont m'arrêter l'histoire. On voyait partout des sardines alignées dans de l'huile de moteur. Fallait donc qu'on couse à nos jeans des fils de couleurs. On était nés sur des ruines. The times were changing. On pouvait planter des fleurs. On voulait juste des jours meilleurs. Juste des jours meilleurs. J'ai trouvé qui s'amène, il s'envole, il t'emmène et tu t'en vas, tiré par 36 planeurs. J'en ai trouvé qui rôde au fond des nuits chaudes, au fond d'un lit du tropical équateur. Qui casse un grand pan d'habitude et puis qui s'en va. J'ai l'impression de voir une cible émerger du brouillard, d'avoir pensé l'impossible et dans un soupir du temps l'apercevoir. Même si je vois encore des sardines alignées dans de l'huile de moteur, il me reste un couplet d'Imagine qui m'emmène ailleurs.
Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus, vous écoutez le 103.2. Et puis, vous pouvez nous écouter en DAB+, vous avez cette chance maintenant. Ou alors, écouter tous nos podcasts divers et variés sur radioallianceplus.fr. Je suis avec Bernard Angosto, psychanalyste qui a un cabinet à Beauvoisin, qui est membre de l'Église protestante unie de Nîmes, en particulier à la paroisse du Mas des Abeilles, et puis qui est aussi aumônier depuis peu à la maison d'arrêt de Nîmes. Alors, vous nous avez beaucoup parlé de ce métier de la psychanalyse, qui est un métier, c'est vrai, particulier dans son rapport à l'autre. Comment est-ce que vous vivez cette relation, vous, à l'autre? Comment est-ce que ça se passe, une séance, on peut dire, et...
Alors, l'idée principale, c'est que l'analyste reste en dehors de son cabinet, son moi, c'est-à-dire qu'il n'a pas à raconter tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est la parole de l'analysant qui est la plus importante. Donc c'est difficile de vous répondre comme ça, parce qu'il y a des temps dans une cure. Au départ, évidemment, il y a des questions, il y a des réponses. Mais au bout d'un moment, l'analyste doit s'effacer, et ça c'est très important, pas si simple, doit s'effacer, doit se taire, pour que l'analysant puisse prendre toute sa place. La question du silence est particulièrement importante. Le silence de l'analyste, comme je dis très rapidement, il doit mettre son moi dans sa poche. Parce que s'il le met au centre de la cure, on n'est plus dans l'analyse, on est dans autre chose. Ça, c'est particulièrement important.
Vous avez parlé tout à l'heure de votre foi, de votre engagement aussi à la maison d'arrêt et à l'église, parce que vous êtes en service aussi souvent avec l'Église protestante unie. Qu'est-ce que ça vous donne dans ce métier? Comment est-ce que vous conjuguez les deux, je dirais?
Déjà, la question d'être au service, c'est très juste, Christiane. Ça me semble particulièrement important. Et une phrase de Lacan, très intéressante, disait « la psychanalyse, c'est une question de foi ». Alors, il ne parlait pas peut-être de la même foi, mais en tout cas, c'est un engagement complet. On s'y engage dans son psychisme, dans son corps. On ne fait pas semblant, on y va vraiment. On y va dans l'éprouver, pas simplement avec l'intellectuel. L'idée, c'est comment ça vibre en nous. Et ce que j'aime beaucoup avec la question du travail des textes dans le protestantisme, c'est effectivement l'interprétation. Hein. Au-delà d'une action intellectuelle, c'est comment le texte, alors le texte écrit de la Bible, hein, du Nouveau Testament, des évangiles, comment mettre l'évangile au cœur de sa vie, comment ce texte vibre en nous. Mais je pense que dans un moment, dans une séance de cure psychanalytique, ce que dit l'analysant fait vibrer des choses, et c'est avec ça que je travaille. En fait, je travaille avec ma propre cure. Et ça, c'est très, très important. Alors, ça peut paraître opaque, là aussi, hein, ça, c'est un peu curieux. Peut-être ou pas, d'ailleurs, j'en sais rien. Mais c'est, voilà, c'est une question de foi, là aussi. On est engagé complètement. La foi, en psychanalyse, c'est la foi dans l'inconscient. Hein? Dans cet autre-là qui nous meut au-delà de nous-mêmes. Voilà. S'il n'y a pas cette foi minima et dans l'autre, et dans le fait que ça puisse bouger, c'est-à-dire que la foi, elle est là aussi. C'est-à-dire que je pense toujours que quelque chose peut bouger. Toujours, toujours, toujours. Même parfois dans des situations où on a l'impression que tout est figé, ça va rester figé. Non, non, jamais. Il y a toujours cette idée chez moi que quelque chose chez l'autre va bouger parce que chez moi, ça bouge. Hein? Quelque chose peut évoluer, quelque chose peut aller mieux, voire même aller bien. Ça, c'est chevillé au corps, c'est chevillé à l'âme. Si on n'a pas ça, il ne faut pas prendre cette place-là. On ne s'autorise pas dans ce cas-là, on fait autre chose. Okay. Mais moi, je suis persuadé en permanence que les choses vont évoluer. Et je le vois tous les jours que Dieu fait, si j'ose dire. Je le sens. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose. Après, effectivement, il faut être aussi complètement ouvert au fait que ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Il y a des personnes pour qui la psychanalyse ne fonctionnera pas. Il faut être aussi capable d'accompagner vers d'autres. Je crois que c'est aussi ça, avoir la foi. Pas simplement la foi dans le dispositif, mais aussi dans la foi dans que l'autre peut aussi amener quelque chose, peut aussi permettre que quelque chose bouge. Hein, c'est aussi ça. C'est-à-dire, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Quelqu'un m'accompagne. Et ça me donne toute la force au quotidien. Même dans des moments où voilà, ça ne laisse pas indemne. Quand je rentre chez moi, ce n'est pas derrière moi hein, ce qui se passe. Hein. J'entends des histoires de vie qui sont particulièrement difficiles. Hein. Donc, c'est dans mes rêves, c'est dans mon corps, etc. Hein. Ça ne laisse pas indemne. Mais il y a toujours cette foi chevillée au corps. Hein, cet amour, finalement, parce que je crois que c'est de ça dont il est question. Lacan aussi, que je cite beaucoup, mais il est important, avait cette phrase, disait « Même si vous n'êtes pas bon, mais que vous aimez vos analysants, vous ne leur ferez pas trop de mal. » Alors, peut-être que ça me rassure. C'est pas le but, simplement. Mais effectivement, là aussi, c'est une question d'amour. Là aussi.
Parce que ça dure assez longtemps, une cure psychanalytique. Donc, il faut tenir dans le temps avec les personnes et elles de même. Mais c'est important, le temps, je pense.
Oui, tout dépend de quel temps nous parlons. Le temps, c'est pas le temps chronologique dans une cure psychanalytique. Ça, c'est le temps de la montre. Le temps, c'est le temps logique, c'est-à-dire le temps de notre psychisme. Et c'est deux temps différents. C'est pour ça que parler de temps d'une cure psychanalytique, c'est très subjectif. Le temps logique est un temps propre à chacun dans son psychisme. Certaines personnes vont mettre 10 ou 15 ans et d'autres peut-être moins, mais peu importe le temps chronologique. Ce qui compte, c'est le temps logique, c'est-à-dire le temps du psychisme de chacun.
Donc, c'est une longue rencontre avec vos analysants.
Oui.
Il y a un bienfait réciproque, je pense.
Oui, complètement.
C'est-à-dire que vous recevez...
Moi, j'apprends. J'apprends de mes analysants, pas de mes maîtres. C'est-à-dire que Dolto disait quelque chose que j'aimais beaucoup et dans lequel je me retrouve. François Dolto disait là, quelqu'un l'interroge en disant « Mais de qui vous avez appris le plus en attendant que ce soit un auteur, etc. Soit Freud, soit Lacan, soit Winnicott, soit plein d'autres. » Et Dolto dit « Non, ce dont j'ai appris les plus, c'est de l'observation des enfants et des enfants entre eux. Moi, ce dont j'apprends le plus, ce sont mes analysants et mes analysantes, comme on dit aujourd'hui. C'est eux dont j'apprends le plus. »
On pourrait, bien sûr, prolonger cette émission en parlant aussi de votre relation avec les détenus en maison d'arrêt, mais je crois que ça pourrait faire l'objet d'une autre émission avec vous et avec d'autres, avec une équipe, parce que là aussi, vous n'êtes pas seul à la maison d'arrêt. Donc, il y a d'autres personnes, peut-être on peut les nommer.
Oui.
Une équipe, c'est...
Oui, alors l'équipe, il y a d'abord un guide, parce qu'il nous faut un guide nécessairement, hein. C'est Franck Masler, le pasteur.
Oui.
Il y a Paul Blaise qui est, effectivement, qui vient pour les cultes, et quelque chose d'important, c'est le chant dans les cultes. Paul joue admirablement bien du piano, mais aussi de la guitare, et comme disait Luther, mais avant lui, saint Augustin, bien chanter, c'est prier deux fois. Et ça, je le ressens à chaque fois, parce que les personnes détenues chantent, et chantent beaucoup, et chantent bien, bien mieux que moi en tout cas. Donc il y a quelque chose qui se passe là, et ça, c'est nécessaire la musique dans un culte. Alors j'en étais pas sûr, mais je m'en aperçois petit à petit de l'importance, hein, de ce que la musique peut amener, et notamment du chant, particulièrement important, me semble-t-il, hein, pour élever nos âmes un petit peu, prier ensemble. Parce qu'effectivement, être servi, je pense que c'est de l'ordre de la prière aujourd'hui. Hein. J'y pense, là, ça me vient. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je voulais le dire. Voilà, être servi, c'est du côté de la prière. Donc, il y a aussi Hélène Van de Werther qui est là, et Estelle, dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse. Donc, nous sommes une belle équipe de 5 personnes, voilà, pour les cultes. Et effectivement, Franck Masler et moi-même allons dans les entretiens voilà, individuels. Alors moi, c'est bénévole, donc je donne le temps que je peux donner.
Mmh. Voilà, donc vous êtes tous les deux aumôniers à la maison d'arrêt de Nîmes, mais nous y reviendrons, nous ferons une émission avec toutes les personnes que vous avez citées pour faire connaissance avec eux, et puis peut-être une autre fois nous élargirons encore, parce que c'est un endroit aussi particulier et très chargé, et où chacun vit quelque chose de différent aussi. Et nous aurons certainement l'occasion d'en reparler. Et pour le moment, eh bien, il est l'heure de nous séparer. Bernard Angosto, merci pour cette rencontre passionnante autour de la psychanalyse, entre autres, et la foi.
Merci beaucoup de votre invitation, Christiane Hervault.